Terpsichore.
Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle chronique dans laquelle je vais vous parler d'un style de danse assez récent, le voguing. Peut-être que ce mot vous dit quelque chose parce que vous avez vu la scène d'introduction du film Climax de Gaspard Noé, ou alors parce que vous connaissez le titre Vogue de Madonna, ou tout simplement vous avez déjà vu des représentations de voguing. Mais alors qu'est-ce que c'est exactement? Quelles sont les origines du voguing? Quelles sont ses caractéristiques et quels sont les enjeux qui y sont liés? Dans cet épisode, je vais aborder toutes ces questions et tenter de vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de cette danse. Avant toute chose, il faut savoir que le voguing est à la fois un mouvement du fait qu'il désigne une danse, mais aussi parce qu'il représente un mouvement culturel à part entière. On va le voir juste après, le voguing est une danse éminemment émancipatrice de la culture, de la communauté, LGBT, noire et latino. Mais d'abord, il nous faut remonter à la fin du 19e et au début du 20e siècle aux États-Unis. À cette époque, des personnes gays, lesbiennes et transgenres blanches se rassemblent régulièrement lors de soirées où elles peuvent danser et s'amuser sans avoir peur de se faire juger par les bien-pensants de la société. Selon Tiphaine Brissin et Jérémy Patinier, qui ont écrit le livre « Strike a Pose, histoire du voguing », le premier événement de ce type aurait eu lieu à Harlem en 1869. Ensuite, au cours des années 1920-1930, cette contre-culture se développe progressivement et attise la curiosité de la presse et du public. Les lieux dans lesquels les soirées sont organisées prennent rapidement le nom de ballroom ou ball, et des concours de beauté, des représentations de drague et des défilés où chacun peut illustrer son identité sont organisés. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est le drag, c'est un art de la performance où il s'agit d'exprimer un genre de manière exagérée à des fins de divertissement. Toutefois, et comme très souvent malheureusement, des personnes sont en marge de ces événements. Les personnes de la communauté LGBT afro-latino sont très peu représentées. Lors des compétitions, elles ne reçoivent jamais de prix en raison de leur couleur de peau, et de ce que j'ai pu lire, elles étaient même obligées de se blanchir le visage pour y participer. Donc pour lutter contre ce racisme manifeste au sein de la communauté LGBT, les personnes exclues décidèrent de créer leur propre bol où elles pourront s'épanouir librement, sans être discriminées. Je précise que ça s'inscrit dans le contexte des années 60, où les mouvements de lutte pour les droits civiques et le Black Power se font entendre, avec des figures de proue comme Martin Luther King, pour ne citer que lui. Les auteurs Bressin et Patinier situent le premier ballroom exclusivement noir et latino en 1962, donc presque 100 ans après le premier événement de ce type. Lorsque la communauté LGBT afro-latino se réunit, il s'agit alors de parodier les concours de beauté de l'élite blanche, en imitant les postures, les gestuelles des mannequins qui défilent sur les podiums. Le nom voguing vient du magazine américain Vogue, qui incarnait à ce moment-là tout ce à quoi ces personnes n'avaient pas accès, donc la mode, l'argent, le luxe et même plus largement le capitalisme. Les bols deviennent alors une sorte de manifeste, de revendication symbolique de la liberté des personnes gays, lesbiennes et transgenres afro-latino. Les imitations des poses de mannequins de manière très exagérée se font sur de la musique disco ou house et le voguing devient progressivement une danse à part entière. Ces soirées, elles permettent de s'iconiser, de se créer soi-même modèle tout en étant dans une démarche subversive. Pour ça, les personnes qui font du voguing s'habillent avec leurs plus beaux costumes à paillettes et des cuissardes à talons aiguilles, tout ça avec un maquillage flamboyant. En fait, avec ces poses, les danseurs se jouent des codes sociaux et créent des satires de la sexualité, du genre, de la féminité sociale. Donc maintenant, je vais un petit peu vous expliquer comment le voguing s'organise et quels sont les mouvements clés de cette danse. Déjà, il faut savoir que la ballroom désigne à présent toute une communauté et qu'elle s'organise de manière spécifique. Quelqu'un qui voudrait apprendre à voguer ne pourrait pas aller prendre des cours comme il le ferait pour du classique ou du jazz, parce que le voguing est un art qui se transmet essentiellement verbalement, au sein de familles, d'équipes, qu'on appelle les houses. À la base, les houses portent des noms de maisons de haute couture, de luxe ou de cosmétiques, toujours dans cette même idée de représenter ce à quoi les personnes de la communauté n'ont pas accès. Donc on retrouve des noms comme Mugler, Gucci, Prada, Revlon. et au fur et à mesure, certaines houses ont pris des noms sans rapport avec la mode, juste pour définir le style qu'ils voulaient avoir. Par exemple, on a la House of Ninja, qui a un style de danse très précis. Une house, c'est en quelque sorte une famille de substitution, puisqu'à l'époque, les personnes discriminées étaient même rejetées par leur famille biologique. C'est pour ça que les houses sont constituées comme des familles avec une mother, un father, des kids, et qu'il y a un véritable esprit d'entraide qui y règne. Ces houses, elles sont constituées d'environ 15 à 30 danseurs et elles s'affrontent lors des balls dans différentes catégories qui permettent à chaque fois de fantasmer une vie meilleure. Donc par exemple, on a la catégorie mode où les personnes défilent comme si elles étaient mannequins, la catégorie best dressed où il s'agit d'avoir la plus belle tenue possible si on allait dans un red carpet, la catégorie maquillage avec les concours de drag queen, etc. Les compétitions célèbrent donc toutes les identités en alliant la mode, la performance et l'esthétisme. Elles sont présidées par un maître de cérémonie et il y a des juges qui attribuent des notes puisque le but ultime, c'est de remporter le trophée. Le voguing fait donc partie des performances et c'est une danse qui est très féminine puisqu'elle a été créée par les femmes trans pour se revendiquer en tant que telles. Il y a plusieurs manières de faire du voguing. D'abord, il y a le old way, qui est la manière originelle. Donc, elle se danse avec des mouvements linéaires et angulaires qui découlent directement des poses des mannequins dans les magazines. Et tout à l'heure, j'évoquais le titre Vogue de Madonna. Eh bien, c'est le old way qui est dansé dans le clip en noir et blanc, qui a d'ailleurs été créé par David Fincher, le même qui a réalisé Fight Club. Avec cette chanson, la pop star a popularisé le voguing au sein du grand public. Donc ensuite, on a le New Way, qui est assez similaire au Old Way, mais auquel on ajoute de la contorsion et un rythme plus soutenu. Enfin, il y a aussi le Vogue Femme, qui signifie Vogue like a film queen, donc a film queen, c'est une femme trans, qui trouve ses inspirations dans le ballet, le jazz et la danse moderne. Les danseurs exécutent toujours des poses féminines burlesques, à l'aide cette fois-ci de 5 éléments définis, les hands, le catwalk, le duckwalk, le floor et le spin and dip. Les hands, ce sont donc les mouvements des mains et des bras. Ça ne s'arrête jamais et ça sert en fait à s'exprimer, à raconter des histoires. Le fait de naviguer ses mains autour de son visage est toujours là pour rappeler une fois encore les poses de magazine. Le catwalk, c'est le fait de se déplacer comme le ferait un mannequin, mais en exagérant largement le mouvement des hanches, toujours dans une démarche de narration physique. Ensuite, le duckwalk, c'est un pas de transition du catwalk, où le danseur performe en étant accroupi, et c'est vraiment très physique d'ailleurs pour avoir déjà essayé, et ça permet d'aller vers le floor de performance. Le floor, comme son nom l'indique de manière assez évidente, c'est la partie au sol, et c'est une partie qui est très suggestive et très sensuelle, où la féminité est à son paroxysme. Enfin, le spin and dip, c'est un mouvement où la personne danse et ensuite elle tombe au sol sur le dos avec une jambe repliée et l'autre tendue en l'air de façon théâtrale. Ce mouvement s'accompagne d'un changement de musique et il a une portée symbolique. Chacun a un peu sa propre interprétation, mais il peut par exemple représenter la violence à laquelle la communauté LGBT fait face au sein de la société. Pour finir, en abordant un petit peu le sujet de la France, Paris, c'est la deuxième plus grande scène internationale de voguing après New York, mais sa formation est encore très récente, elle a seulement un peu plus de 10 ans. Pour ne parler que de lui, le DJ Kid Ismail, que vous connaissez peut-être, est l'un des ambassadeurs du voguing français, notamment depuis la sortie de son titre Let the Beach Now en 2016. Donc petite anecdote par rapport à ça, lors de la fête de la musique en 2018, notre très cher président Emmanuel Macron l'a invité à se produire dans la cour du palais de l'Élysée. Kid Ismail s'y est donc rendu accompagné de plusieurs danseurs en mini-short et talons aiguilles qui ne se sont pas gênés pour réaliser leurs poses lascives et suggestives devant notre bon Manu et notre bonne Brigitte. Donc Kid Ismail portait quant à lui un t-shirt avec l'inscription « Fils d'immigrés, noir et pédé » et a vu dans cette invitation une occasion de faire rentrer le voguing sur une scène du pouvoir. Il a dit à ce propos, je cite, « Cette invitation à mixer dans la demeure temporaire de Macron se présente à moi comme une opportunité de faire passer mes messages. Moi, fils d'immigrés noirs et PD, va pouvoir aller au cœur du système et provoquer du discours de par ma présence. Donc je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet du voguing, donc je vais m'arrêter sur cette petite histoire. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur le voguing, il y a un film qui a l'air d'être devenu culte concernant ce sujet, qui s'appelle Paris is Burning. C'est un documentaire qui a été réalisé par Jenny Livingston et qui est sorti en 1990. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.